Bonjour à tous. Alors, c'est une joie et en même temps un sens de responsabilité quand on apporte l'écriture. Ma prière, ce n'est pas seulement que l'on puisse comprendre ce que la Bible veut nous dire, mais ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Et nous allons poursuivre les prédications sur le chapitre 7 des Hébreux. La semaine dernière, Benjamin nous a amenés dans le Moyen-Orient ancien avec Abraham, ses chameaux et ses 318 serviteurs qui ont été rencontrés par Melchisédek. Vous vous souvenez de cette histoire? Alors, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais avant de poursuivre, alors c'est vrai, on l'a dit, oui, ce sont des passages difficiles et tout cela. Alors j'ai fait comme l'évangéliste Luc, je suis allé chercher des sources, vous lirez au chapitre 1, verset 3, j'ai voulu savoir ce qu'il en était et j'ai fait des recherches exactes. Il parlait à Théophile, vous trouverez ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 3. Alors, quand on parle de l'auteur de l'épître aux Hébreux, il faut se remettre dans le contexte de son époque. Je crois qu'on n'a pas toujours une idée de ce qui se passe. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire intertestamentaire, pas revenir sur l'introduction de l'Épître aux Hébreux que nous avons fait ici un samedi matin. Mais ce qui est important, c'est de voir qui les enseignait, quelle manière était enseigné ce peuple. Et ils étaient en particulier, il y avait deux hommes qui ont marqué l'époque de Jésus, c'était Hillel et Shammai, c'était deux savants juifs qui donnaient des interprétations de l'Écriture. L'un était rigoriste, c'était Shammai, lui qui accordait même que pour une soupe, on pouvait divorcer de sa femme. Et l'autre était Hillel. Or, Hillel, pour vous, je sais pas qui c'est. Gamaliel, peut-être, ça vous dit quelque chose. Gamaliel, ah, très bien. Et qui a été enseigné par Gamaliel, entre autres? Voilà. Donc, on peut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a eu le même enseignement. Alors, Hillel, il disait ceci, le principe célèbre de Hillel était essentiellement l'utilisation des Écritures pour interpréter les Écritures. Donc, c'est ce que nous faisons, ou c'est ce que nous essayons de faire. Et en particulier, quand on lit l'Épître aux Hébreux, il faut penser aussi à la manière à laquelle étaient enseignés les Juifs à cette époque, tous les samedis. Et là, il faudrait lire ce que dit Joseph, un historien qui a vécu à l'époque de Jésus. Chaque week-end, enfin chaque samedi, les Juifs se devaient de cesser leur activité et d'être enseigné, de connaître les lois et les lois cérémonielles. Et même, ça allait plus loin que ceux, les sacrificateurs qui devaient enseigner le peuple. Pour les plus doués, ils apprenaient le Pentateuque par cœur. Déjà, nous, déjà apprendre Jean 3, 16 et après quelques versets. Donc, on a encore du boulot, n'est-ce pas? Alors, tout cela, ce n'est pas pour nous écraser, mais pour nous montrer que Dieu, dans sa sagesse, nous a donné des hommes. Et encore nous, aujourd'hui, pour comprendre la parole de Dieu, il nous faut, et nous avons des hommes, des théologiens, des pasteurs, qui nous enseignent ce qu'est l'Écriture. Et l'Épître aux Hébreux, quand on lit le chapitre 7, c'est à partir du chapitre 2, verset 17, il nous est parlé du souverain sacrificateur. Imaginez dans l'auditoire auquel parlait cet auteur qui était sacrificateur. Et quand ils entendent cet homme dire, maintenant, il y a un autre souverain sacrificateur, compatissant, miséricordieux, fidèle, selon l'ordre de Melchisédek. Et quand on lit l'histoire juive, on voit combien ils étaient, ces sacrificateurs, attachés à leur fonction et attachés aux prérogatives que donnait justement cette fonction sacerdotale. C'était une remise en cause complète de tout le système. Car quand on lit la Bible, on voit que tout tourne autour du temple, tout tourne, l'histoire d'Israël tourne autour du tabernacle. La vie spirituelle, la vie religieuse n'était pas détachée, comme chez nous. Hein. Nous, il y a la laïcité. Vous pouvez être chrétien, mais chez vous, tranquille. C'est-à-dire que c'était une théocratie. Voilà, ça c'est une première chose. On y reviendra tout à l'heure. Mais l'Épître aux Hébreux, au point de départ, je cite, c'est Henri Blocher dans son ouvrage « La doctrine de Christ » dit ceci, « Au point de départ de la réflexion, l'oracle du psaume 110, il était courant dans le christianisme primitif de le citer pour l'intronisation royale du Messie. Le théologien anonyme, donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, voit plus loin, et sachant le peu de familiarité de ses lecteurs avec son thème, il l'amène par une lente et minutieuse préparation pour lui donner le plus grand développement dans la partie centrale. Jésus a reçu régulièrement sa charge de grand prêtre, comme Aaron lui-même au désert. Dieu lui-même l'a appelé, proclamé, perfectionné, etc. » Donc, le chapitre 7, on peut dire, c'est une préparation. Et si on prend la structure maintenant de l'Épître aux Hébreux, j'espère que je ne vous perds pas, comme dit toujours ma femme, pour toi c'est simple, tout est dans ta tête. Mais maintenant, il faut que je vous le reproduise. À partir du chapitre 8, 9 et 10, jusqu'au verset 18 du chapitre 10, nous allons arriver au cœur de l'Épître. C'est le point culminant. Au chapitre 8, il est parlé que Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente. Quand nous prenons la Sainte Cène, je suis un peu frustré. Rarement, on ne parle de ce que Jésus a dit dans Luc 22. Il a parlé d'une nouvelle alliance. Jésus lui-même l'avait annoncé. Quand nous avons pris ce culte de Cène, Christ veut dire, maintenant j'ai fait une alliance avec chacun d'entre vous. Chapitre 9, c'est la perfection du sacrifice de Christ. Christ, parfait sacrifice, parfait sacrificateur. C'est ce que nous verrons, c'est ce qui est dit dans le chapitre 7. Et les chapitres 10, verset 18, par la sanctification du corps de Christ, nous sommes mis à part. C'est-à-dire, cela nous intéresse chacun de nous. Notre vie chrétienne, notre position devant Dieu, elle est affirmée par le don de Christ. Dieu, Christ est entré dans le monde en disant « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes appelés enfants de Dieu et que nous sommes mis à part pour Dieu. Voilà les quelques réflexions que nous amène l'étude de la parole de Dieu. Alors, maintenant, nous allons arriver au chapitre 7. La semaine dernière, nous étions arrêtés au verset 10. Aujourd'hui, nous allons reprendre la lecture. Alors, les versets 11 à 28. Nous ne ferons pas la lecture globale, car de 11 à 28, il y a trois temps. De 11 à 18, à 17, pardon, on va voir qu'il est parlé d'une perfection qui n'était pas possible et comment Dieu a rendu possible un autre sacerdoce. Le deuxième pensée, c'est le verset 18 à 25, il est parlé d'une annulation, c'est toujours le fil conducteur, on annule une disposition pour en mettre une autre en place, et le point de la flèche, en quelque sorte, ce sera le verset 25, et vous verrez, il y a des belles promesses qui sont faites tout au long de ces textes, nous ne nous y arrêterons pas, nous les citerons, car ce serait trop dense. Et la troisième partie, ça nous parle du verset 26 à 28 de la perfection de Jésus-Christ. Ce sacrificateur parfait, c'est l'immuabilité de Christ, la perfection de Christ. Voilà. Alors, je vais demander à Guy de faire la lecture dans le chapitre 7, les versets 18 à... Oui, pardon, 11. Merci.
Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
Bien. Verset 11, « Si donc la perfection avait été possible. » Donc, après avoir présenté Jésus selon l'ordre de Melchisédek, je ne reviens pas à tout ce qui a été dit la semaine dernière, mais il faut bien penser que le psaume 110, verset 4, c'est Dieu qui déclare « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Et ce thème, si vous lisez les chapitres qui précèdent, vous verrez que c'était alors la particularité de cet auteur, il lance des pistes de réflexion et il les développe quelque temps plus tard. Là, par exemple, quand il dit dans les chapitres précédents, selon l'ordre de Melchisédek, chapitres 4 et 5, il faut attendre le chapitre 7 pour qu'il en donne l'explication. De la même manière aujourd'hui, quand on va lire certains points, mais nous n'aurons que l'explication dans les chapitres qui suivent. Vous voyez, il n'a pas une... Il ne fait pas une thèse en disant « je pars d'un point, je vous l'explique ». Il sème des petits cailloux, ci et là, et c'est à nous de repérer le texte, qu'est-ce qu'il va dire, on va le retrouver plus tard. Donc c'est peut-être aussi c'est en cela qu'il y a une difficulté, hein, c'est qu'il n'énonce pas tout de suite ce qu'il annonce. Il faut le chercher. Ça nous fait du bien, travailler un peu nos neurones. C'est très bon pour Alzheimer. Mais j'aimerais surtout m'arrêter un court instant sur le petit crochet, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Si j'étais autour d'une table, étude biblique, ou partage, c'est quoi le sacerdoce lévitique? Parce qu'on parle de choses, c'est bien, mais de quoi parlons-nous? Alors là, les réponses, ça peut aller dans tous les sens, le peu de connaissances que l'on a. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous torturer très longtemps. Et je crois qu'il nous faut revenir aux fondamentaux. C'est ce que fait l'auteur de l'Épître. Il ne parle pas de la situation. Remarquez qu'il va toujours parler du tabernacle. Et quand j'ai réfléchi, j'ai trouvé que c'était habile de sa part. Car quand il prêchait, s'il avait parlé du temple, là, il y aurait des passions qui se seraient déchaînées. Il suffit de voir, quand Jésus parlait du temple, de quelle manière on lui répondait. Et puis, on était tellement orgueilleux de ce temple. Et puis, les explications auraient été incomplètes, car quand il prêchait, cet auteur, le voile qui séparait le lieu du lieu très saint avait été déchiré. Le lieu très saint, Il n'y avait plus l'arche depuis la prise de Babylone en 586 par Nebuchadnezzar. L'arche a disparu. C'était vide, le lieu très saint. Donc, il a pris les fondamentaux, ce que Dieu a dit. Alors, je ne vais pas parler ce matin du costume de Aaron, c'est ce qu'on essaierait de faire, ni expliquer ce qu'il va faire, mais il y a autre chose de beaucoup plus important. Dans Exode 25, voyons le plan de Dieu, pourquoi ce sacerdoce a été, pourquoi a-t-il fallu des sacrificateurs ? Alors nous lisons au chapitre 25 d'Exode, il y a un entretien fabuleux. Quand on lit la Bible, c'est formidable, c'est qu'on voit un entretien entre Moïse et Dieu. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, et là il y a un entretien, il y a des instructions qui sont données à Moïse. Et le verset 5 dit ceci, Dieu dit à Moïse, en parlant du peuple et à lui-même, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Et soit, on peut appeler ça une loi spirituelle. Tu feras, là Dieu exprime sa volonté. Mais tu ne feras pas n'importe quoi. Parce qu'à l'époque, il y avait toutes sortes de temples. Mais tu feras, et c'est repris dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, tu feras selon le modèle que je vais te montrer. Première chose. Et la deuxième chose qui est formidable, c'est là, verset 22, que je me rencontrerai avec toi. Là, il parle du lieu très saint, là où sera mis l'arche. Et il dit, je me rencontre avec toi du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Il y avait deux anges qui étaient sculptés, qui étaient posés sur ce couvercle, le regard tourné vers l'intérieur de l'arche, à l'intérieur de laquelle il y avait la manne, la verge qui voulait attester le sacerdoce de Aaron, et les tables de la loi. Placé sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Vous voyez l'importance ? Et je crois que c'est cela qui est important. Et il faut attendre le chapitre 28 pour voir que Dieu, pour qu'il y ait cette rencontre, Dieu va nommer des hommes. Et ce sont la famille d'Aaron au chapitre 28. Vous pourrez le lire, 28-29. Ce sont deux chapitres. Et il est dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et tes fils, prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Et il faut aller un peu plus loin, on voit que ces hommes ont été investis par Dieu, choisis par Dieu, pour être d'une part, quand ils s'approchaient de faire l'office dans le tabernacle, de la part des hommes, ils ne venaient jamais les mains vides. Parce qu'il y a un autre principe qui est établi au chapitre 22. Je vous dis beaucoup de choses, mais il faut se les rappeler. Au chapitre 24, Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, 24-8, « Voici le sang d'alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. » On ne pouvait pas faire ce service sans qu'il y ait d'abord, premièrement, une victime qui soit offerte, ça s'appelle le sacrifice de substitution, une victime offerte à la place du pécheur. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Et sans entrer dans tous les détails, il y avait un fait dans l'histoire du peuple. Chaque année, la fête du Yom Kippour, celui qui était la charge la plus élevée parmi les sacrificateurs, le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu très saint avec le sang d'un animal. Et il y avait toute une cérémonie, un cérémonial. Et quand il ressortait, c'était un gage que Dieu avait agréé le sacrifice qui avait été offert. Là, j'en dis pas plus. Donc, voilà les grandes lignes du sacerdoce. Et là, ici, il est parlé. Maintenant, j'en reviens au texte. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, on ne va pas entrer dans toute l'histoire qui parcourt l'Ancien Testament, on voit que malheureusement, D'une part, la suite du texte nous montre que la mort intervenant dans les sacrificateurs, ils n'étaient pas perpétuels. La fidélité chez les sacrificateurs, elle n'était pas toujours là. Il suffit de lire dans l'histoire de Samuel, les premiers chapitres, on voit que il y avait la faillite, les sacrificateurs, ils faisaient n'importe quoi. Et là, c'est là que Dieu avait dit une parole, qu'il cherchait un sacrificateur et à qui il donnerait une maison stable. C'est 1 Samuel, chapitre 2, les versets 22, sauf erreur. Parfois, je cite des versets de mémoire, excusez s'il n'y a pas l'exactitude. Ne m'en veuillez pas si de ce côté-là, je me trompe. Donc, je reviens à mon texte. Était-il donc, maintenant, une question qui est posée, si la perfection avait été possible, était-il donc nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur? Évidemment, il n'y a pas eu de perfection. Il y avait même échec. Et du temps de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, les sacrificateurs, c'était le roi Hérode ou les Romains qui nommaient les souverains sacrificateurs. On ne tenait plus compte de ce que Dieu avait dit, que c'était de la lignée d'Aaron. Vous voyez ? Donc, l'imperfection. Alors, que se passe-t-il ? C'est là que l'on voit la fidélité de Dieu. Dieu, il se choisit un homme, il se choisit lui-même, Jésus-Christ. Car le sacrifice paraît un autre sacrificateur selon, je vais aller tout doucement hein, parce qu'il y a des répétitions, on n'a pas l'habitude de lire ces textes, un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Dieu dit maintenant, c'est fini, changement de direction. Et Jésus, qu'a-t-il dit à la femme samaritaine au chapitre 2 de l'évangile de Jean ? Chapitre 4, pardon. Merci. C'est bien d'avoir un souffleur. Jésus parle à cette femme samaritaine et puis il dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. » Il y avait un débat. Nous, les Samaritains, sur le mont Garizib, nous adorons. Puis les Juifs disaient, « Non, c'est à Jérusalem. » Et voilà l'ordre nouveau que Jésus apporte. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. » C'est le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, après avoir parlé de différentes façons, de différentes manières par les prophètes. Dieu nous parle par le Fils. Et que répond Jésus ? Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses, dit la Samaritaine. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là, ici, Jésus dit clairement qu'il est ce Messie qui était attendu. Donc, il y a un changement dans la relation avec Dieu. Ce ne sera plus d'un côté ou de l'autre, mais ce sera en esprit et en vérité. Alors, il est évident qu'il y a toute une série de contrastes. Il est dit que Jésus n'appartenait pas à la tribu de Lévi, hein, parce que c'était les Lévites, mais il appartenait à la tribu de Juda, pour laquelle il n'avait pas été donné d'instructions concernant le sacerdoce. Il est vrai que toutes les prophéties de Deutéronome 18 disent qu'il y aura un autre prophète, c'est l'aspect prophétique de Jésus-Christ. À David, dans le livre de Samuel, il est dit qu'il y aura une descendance qui restera toujours sur le trône. Pour les Juifs de l'époque, ils s'attendaient à un Messie royal, mais pas dans leur esprit que Christ pouvait cumuler les trois fonctions, prophète, roi et sacrificateur. C'était une bombe, C'était une nouveauté. Et l'auteur de l'Épître, il a pris certains risques. Parce que quand on lit la parole de Dieu, en particulier le livre des Actes, quand Étienne a voulu présenter la parole, quelle a été la réaction, la violence des chefs religieux de l'époque ? Il y avait des points très sensibles. Mais cet homme, par la volonté de Dieu et par la force de l'Esprit, il dit « Mais Christ est aussi ce sacrificateur ». Et il faudrait faire une étude dans l'Épître aux Hébreux, pas moins de 16 mentions de souverain sacrificateur. Et ça commence au chapitre 2, verset 17. Je n'y vais pas plus loin, mais comme dit au chapitre 9, verset 3, ce sont des détails dans lesquels nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Alors, aussi, ce qui est important, si les Lévites, c'est Dieu qui dit « Je les ai installés », maintenant Jésus-Christ, son sacrifice, son office sacerdotal, c'est déjà une déclaration « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui exprime sa volonté. Et puis, si on va plus loin, l'on voit qu'il y a un serment qui est fait. Il est dit que, et cela, c'est les chapitres 20, verset 20, pardon, et cela n'a pas eu lieu sans serment. Dieu ne s'est pas contenté de parler, mais il a fait un serment. Et là, il donne une illustration. Il faut revenir au chapitre 6, les versets 13. Il nous a dit que par deux choses, là, il fait allusion à l'histoire du peuple d'Israël, quand il parle d'Abraham, Dieu a fait une promesse à Abraham, « Tu seras grand, tu seras père d'une multitude de nations. » Ça, c'est le chapitre 15 et 17. Et le chapitre 22, après que Abraham ait offert, enfin que Dieu lui ait demandé d'offrir son fils, que Dieu a dit non, Dieu a fait un serment. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il prend pour cet exemple, il dit « Par ces deux choses, il est impossible que Dieu mente. » Et quand il parlait de serment, c'est Dieu qui s'engage. Ici, nous sommes face à la véracité et aux engagements de Dieu. Alors, les versets 18 à 25, nous voyons que la loi n'a rien amené à la perfection. Ici, c'est la loi cérémonielle. Bon, il y a les 10 commandements, mais il y avait la loi cérémonielle. C'est le code sacerdotal, c'est-à-dire le livre du Lévitique. Si vous êtes déjà penché dessus, je sais que Benjamin, il se régale. Lui, il aime ça, et il aime beaucoup. Moi aussi, alors, ça va. Mais c'est beau de voir comment Dieu présente ses sacrifices, de voir comment Dieu permet qu'il y ait une vie dans sa présence. Mais nous voyons que cela a eu ses limites. La loi n'a rien amené à la perfection. Et en effet, il fallait tous les jours offrir le sacrifice. Et une fois par an, les péchés du peuple étaient rappelés avec cette fête du Yom Kippour. Et là, Dieu dit, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Jésus, verset 22, est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il faudra lire au chapitre 9, les versets 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, Jésus-Christ, aujourd'hui. » Nous parlons beaucoup de la mort, de la crucifixion, mais l'exaltation, c'est-à-dire aujourd'hui, Christ, il est devant la face de Dieu, il est dans le lieu très saint, et devant Dieu, il dit, je suis, je me présente, il nous représente. Et j'aime beaucoup l'exemple dans Malachie, quand il est parlé de ce sacrificateur, qui est devant Dieu et qui Satan vient et il accuse cet homme. Il dit, regarde, il est sale, il est dégoûtant. Et l'ange de l'Éternel qui vient, il dit, ôtez-lui ses vêtements sales, donnez-lui des vêtements propres. C'est-à-dire que quand nous nous approchons de Dieu, quand nous avons demandé pardon pour nos péchés, Dieu, le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, par l'œuvre de Christ, il nous voit parfaits, saints, sans tache. C'est quelque chose que je ne comprends pas quand je vois ma vie. Mais c'est ainsi que Dieu nous voit, parce que le péché ne peut pas être présent dans la présence de Dieu. Devant Dieu, le péché ne peut pas. Donc il était aboli. Alors les sacrificateurs, il y a aussi ce qui... La faiblesse, c'est que, donc, je vous ai dit, le sacerdoce, il n'était transmissible, mais il y avait la mort. C'est-à-dire que là, Christ, il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est-à-dire qu'il est éternel et qui dure. Et la pointe qui est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et je pense que vous m'entendrez souvent le dire, que Christ prie pour nous. Et selon Romains 8, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, s'adresse à Dieu pour nous. Et je pense que c'est quelque chose, nous n'avons pas toujours la réalité. Mais ce matin, que Dieu soit béni, on peut s'approcher parfaitement de Dieu. Et l'apôtre Paul développait cela en parlant de la réconciliation. Nous étions ennemis de Dieu et aujourd'hui, en Christ, nous sommes réconciliés. Nous pouvons, par la foi, spirituellement, comme le dit dans le chapitre 11, c'est par la foi qu'on s'approche de Dieu, par la foi qu'on croit, Dieu, que croit que Dieu existe, c'est par la foi que l'on croit que ses promesses, c'est pour nous. Alors, il est vrai qu'il y a une mauvaise tendance, c'est de trop se culpabiliser pour le péché, mais on ne doit pas l'évacuer. Mais attention, n'entrons pas dans cette sinistrose. C'est vrai que nous sommes pécheurs, c'est vrai que nous continuons de pécher, mais regardons ce que nous avons parlé de liberté. Mais cette liberté, c'est de regarder comme Christ nous voit, comme Christ veut nous rendre par son Saint-Esprit. Il a des ambitions, Dieu, pour notre vie. C'est cela qui est beau. Nous sommes son peuple, racheté par le sang précieux de Christ. Et j'aimerais conclure, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais il nous convenait en effet d'avoir un souverain. Ici, il est parlé, les versets 26 à 28, de la perfection de Christ. Regardez, il est souverain sacrificateur, il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et quand on lit cela, quand Jésus a cheminé sur notre terre, il a vécu comme un homme, comme tous les autres. Mais la Bible nous dit, il n'a pas péché. Il était pur, il a souffert, mais il était exempt de tout péché. Quand on dit séparé des pécheurs, non pas qu'il rejetait, mais séparé justement parce que lui ne l'était pas pécheur. Mais par contre, il avait de la compassion pour ceux et celles qui souffraient, donc à lire les évangiles. Ça, c'est l'incarnation qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, s'offrant lui-même. Ici, c'est la deuxième volet, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Je vous l'ai dit une fois, la rédemption. C'est le rachat, c'est un terme technique de commerce de l'époque, c'était le rachat des esclaves. Ici, c'est le deuxième aspect de l'œuvre de Christ. La première, c'est l'incarnation, Christ qui a vécu parmi nous. Voyons sa vie dans les évangiles. La deuxième partie, c'est quand il est sur la croix. Et il dit dans Jean chapitre 19, tout est accompli. Tout est accompli. Et maintenant, il est la troisième partie, c'est que aujourd'hui Christ, où est-il? Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, comme dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Nous avons donc de quoi être encouragés. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de cela. Et j'aimerais conclure par, si je le retrouve, les quelques versets de conclusion, c'est que nous pouvons nous approcher avec, au chapitre 4, les versets 15 et 16, et nous, et un autre texte, j'aimerais conclure dessus. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et l'autre texte, toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable, c'est la proclamation de la parole, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.